VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Bonjour à tous. 11h, temps universel. Au Nigeria, deux femmes et un homme qui voulaient commettre un attentat suicide ont été tués aujourd'hui aux abords de la ville de Maïdougouri par la détonation des explosifs portés par l'un d'eux. Trois kamikazes donc sont entrés dans la ville par la route de Damboa aux environs de 3h du matin, 2h GMT, et ont été repérés par des membres des comités d'autodéfense, a déclaré à l'AFP Ibrahim Abdul Kadhi, un responsable de l'Agence nationale de gestion des urgences, l'ANEMA. Ils se sont enfuis rapidement et se sont cachés sous trois camions citernes où l'un d'entre eux a fait détonner ses explosifs, les tuant tous, a-t-il précisé. La police a confirmé ces informations et aucune victime n'a été signalée. La lune de miel entre le Mali et l'Inde, le ministre délégué aux affaires étrangères de l'Inde, Mobasher Jawed Akbar, a rencontré les plus hautes autorités maliennes et signé des accords de coopération. Et à Samaké, l'ambassadeur du Mali en Inde parle des retombées de la coopération indo-malienne.
Les attentes, c'est d'abord faire le point de la coopération entre le Mali et l'Inde à un niveau ministériel. Mais l'objectif aussi, c'est de regarder les perspectives de coopération, promouvoir les échanges commerciaux entre le Mali et l'Inde, où l'Inde donne des quotas préférentiels hors taxes au Mali et certains pays africains. Donc les investisseurs maliens peuvent aussi considérer l'Inde comme une destination où ils ont des traitements préférentiels. Donc la coopération sud-sud est bien vivante entre le Mali et l'Inde et les projets financés par l'Inde s'élèvent aujourd'hui à plus de 357 millions de dollars dans 7 projets prioritaires. Et récemment, l'Inde vient d'approuver une ligne de crédit à une hauteur de 100 millions de dollars pour le financement du projet d'interconnexion Sékassou-Bouni-Bamako.
Yaya Samaké, l'ambassadeur du Mali en Inde. Les autorités intérimaires de Gao et Mineka, deux régions du nord du Mali, ont été officiellement investies jeudi, conformément à un calendrier arrêté après plusieurs reports. Mardi déjà, une cérémonie similaire s'était déroulée à Kidal, fief de l'ex-rébellion à dominante Touareg, formant la coordination des mouvements de l'Azawad. Celle de Tombouctou et Taoudenit dans l'extrême nord sont programmés pour ce vendredi. Le général belge Jean-Paul Déconinck a été nommé à la tête des casques bleus au Mali, l'une des plus périlleuses missions menées par les soldats des Nations Unies. Le général-major remplace son homologue danois Michael Lollesgaard au commandement de la mission de l'ONU au Mali, la MINUSMA, forte de 13 000 hommes et faisant l'objet d'attaques répétées. La MINUSMA, lancée en 2013, est la mission de maintien de la paix de l'ONU la plus coûteuse en vies humaines depuis la Somalie, avec déjà une centaine de casques bleus tués.
Dans une conférence de presse conjointe hier à Dakar, le chef de l'État sénégalais Macky Sall a dit souhaiter le soutien du président Barrow dans la recherche de paix en Casamance et dans la lutte contre les trafics de bois et de drogue. La paix en Gambie et la paix au Sénégal. La paix au Sénégal et la paix en Gambie. Et nous trouverons un accord en matière de sécurité, a déclaré son homologue gambien Adama Barrow. La Casamance, séparée du nord du Sénégal par la Gambie, est confrontée à une rébellion depuis 1982. Les deux chefs d'État se sont également engagés à achever la construction du pont sur le fleuve Gambie. Dakar a été à la pointe des pressions diplomatiques et surtout militaires de la CDAO pour contraindre l'ancien président gambien Yahya Jammeh à quitter le pouvoir. Adama Barrow a été accueilli le 15 janvier à Dakar, où 4 jours plus tard, il a prêté serment à l'ambassade gambienne. Il a regagné Banjul le 26 janvier.
Et vous avez compris, on est allé trop vite, un peu trop vite en besogne. Le Sénégal et la Gambie ont décidé de relancer leurs relations à l'occasion de la visite à Dakar du nouveau président gambien, Adama Barrow. Et vous avez entendu à ce sujet Anastasie Toudièche.
Vous êtes sur VOA Afrique à Brazzaville, sur le 101.9 FM.
Il y a 5 ans au Congo-Brazzaville, c'était le 4 mars 2012, explosion dans un dépôt de munitions. Bilan, près de 300 morts. Les survivants de cette tragédie ont toujours du mal à oublier. Ils appellent les autorités à rebâtir leur maison, toujours en ruine. À Brazzaville, retrouvons notre correspondant Nguela Ngoussou.
Bâtiment toujours en ruine et maintenant transformé en décharge publique, le quartier de Yoro en Pila n'a pas changé de visage depuis cette explosion. Mauvais souvenir des survivants.
Franchement, ça me rappelle beaucoup de choses parce que dans ta vie, tu ne peux pas imaginer pour un même jour que tu puisses avoir au moins 40 ou 50 personnes qui meurent devant toi et que tu les reconnais de nom et prénom. Pour moi, c'est quand même décevant. Non, ce n'est pas facile. C'est comme si c'était encore hier.
Ces événements, je ne sais pas si ça pourra encore disparaître de ma tête, mais ça restera gravé jusqu'à la fin de ma vie. J'ai perdu des amis, j'ai même vu des gens qui ont vu des membres de leur corps amputés et autres.
Les populations attendent toujours 5 ans après que les maisons soient rebâties par l'État.
Nous continuons à vivre dans la décombre. C'est comme si notre situation ne préoccupe pas les autorités de l'État. Nous sommes abandonnés à notre triste sort, on ne sait même pas quoi faire. Je ne sais pas s'ils pensent aussi à nous, ceux qui sont à la tête de ce pays.
5 ans après, rien n'a changé, au contraire. L'hypo et l'hypertension est en train de saccager nos papas ici-là. Venez reconstruire les maisons, c'est ce qu'on demande au gouvernement congolais, qu'ils reconstruisent les maisons au lieu de construire là où se trouvaient les explosifs. Nous avons besoin d'eux sur le terrain, qu'ils reconstruisent les maisons. On a habité Mpila, c'est vrai, mais où est Mpila? C'est notre Mpila, il restera notre Mpila, venez reconstruire nos maisons.
Dans les décombres, ça dit par tes propres efforts, tu as essayé un peu d'avoir des tôles, tu as essayé un peu de bricoler, voilà, on ne s'occupe même pas de nous, on est là, ça fait 45 ans. Voilà.
À l'épicentre de cette explosion, l'État a reconstruit des belles maisons. Celles-ci contrastent avec des taudis où habitent des survivants qui n'ont pas été relogés.
Là, on a construit seulement de l'autre côté vers le col 31J, mais nous, derrière le logement blindé, c'est pas construit.
Pas de réponse, et jusqu'à aujourd'hui là. Donc vraiment, c'est étonnant même. Là où il y avait l'explosif du 4 mars, on a construit les maisons là. Les maisons en étage et tout. Et nous, on nous a oubliés là.
Aujourd'hui, des centaines de familles ont pu être relogées à Kintélé, à une trentaine de kilomètres au nord de Brazzaville. Elles sont satisfaites des conditions de leur relogement, mais tiennent toujours à repartir à Mpila, leur quartier d'origine.
On est logé dans les logements. Il manque tout. Parfois l'eau, il rentre dans les maisons. Vous voyez comment nous vivons, hein? La déception totale, une déception totale. Nous sommes là en 2017. Jamais un membre du gouvernement est venu ici voir, enquêter comment les gens vivent ici.
Ici, ça va parce qu'on trouve notre paix de nous-mêmes. Parce qu'en même temps, on disait, oh, les sinistrés, on leur donne le pain comme ceci, comme cela. Mais depuis qu'on est là, on n'a même pas vu même un kilo de riz ou bien de poisson. Mais depuis qu'on est ici, rien. On est abandonné parce qu'on voit rien.
L'explosion de Mpila avait fait, selon le gouvernement, quelques 300 morts. Des militaires avaient été jugés et condamnés, dont le colonel Marcel Ntsourou, par sursis. Nguela Ngoussou, Brazzaville, VO Afrique.
Le Zimbabwe a lancé un appel à l'aide internationale après des inondations qui ont fait au moins 246 morts et déplacé des milliers de personnes dans un pays qui a subi des pluies torrentielles alors qu'il émerge à peine d'une terrible sécheresse. Le ministre zimbabwéen de l'administration locale, Sevio Kasukureke, estime à environ 2000 le nombre de sans-abri et a ajouté que 74 écoles avaient été endommagées et que 70 barrages avaient débordé. En Égypte, l'ex-président Hosni Moubarak a été acquitté définitivement hier par la Cour de cassation au Caire dans un procès pour la mort de manifestants durant la révolte qui a provoqué sa chute. En 2011, Jacques Aristide.
Hosni Moubarak avait été condamné à la prison à vie en juin 2012, mais deux ans après, un tribunal l'avait blanchi. Le parquet avait toutefois introduit un recours en cassation. Hier, cette cour a finalement confirmé l'abandon des charges. Moubarak, qui a régné 30 ans sur l'Égypte, a été accusé d'avoir incité au meurtre des participants à la révolte de 18 jours, au cours de laquelle quelques 850 personnes ont été tuées lors d'affrontements avec la police. Hier soir, on ignorait si l'homme de 87 ans allait pouvoir quitter ou non l'hôpital militaire où il est en résidence surveillée depuis pratiquement son arrestation en 2011. En janvier de l'année dernière, la cour d'appel avait confirmé les amendes et une peine de 3 ans de prison pour lui et ses deux fils dans une affaire de détournement de plus de 15 millions de dollars. La peine tenait compte du temps déjà effectué et ses fils Alaa et Gamal ont été remis en liberté.
Des avions de combat américains ont frappé pour la seconde nuit consécutive des cibles d'Al-Qaïda au Yémen, dont la maison d'un chef du réseau djihadiste, ont indiqué aujourd'hui des responsables dans le pays en guerre. Des responsables de tribus ont fait état d'un nombre indéterminé de victimes, y compris des femmes et des enfants. Mais cette information n'a pu être confirmée dans l'immédiat de sources indépendantes. Et puis, à 51 jours de la présidentielle française, l'entourage d'Alain Juppé a fait savoir qu'il était prêt à remplacer le candidat de la droite François Fillon, qui affronte une hémorragie de ses soutiens en raison du scandale des emplois fictifs présumés. Alain Juppé, ancien Premier ministre, écarté au deuxième tour de la primaire droite, ne se défilera pas si les conditions sont remplies, a fait savoir son entourage. Jean-Roger Billon, le prochain journal dans 50 minutes avec Henri Francisque.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.